Les matins se poursuivent avec le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Des migrants par milliers apeurés dans les champs de Lesbos. Voici le tableau de la nuit sur l'île grecque où le camp qui les abritait a pris feu. Il n'en reste plus rien, nous dira notre envoyé spécial, alors qu'un nouvel exode commence vers le nord.
Les deux tiers de la faune sauvage ont disparu en moins de 50 ans. L'alerte est donnée ce matin par WWF et le bilan, vous l'entendrez, est exponentiel.
General Electric veut supprimer plus de 750 postes en France au profit de la délocalisation, disent les syndicats. Cela fait désordre en plein plan de relance.
Dans ce journal, vous comprendrez aussi pourquoi des femmes métisses attaquent l'État belge en justice pour crimes contre l'humanité. Elles ont été abandonnées lors de l'indépendance du Congo.
Et puis nous entendrons les arguments de l'éditeur Jean-Luc Barré pour faire entrer Rimbaud et Verlaine au Panthéon. Après cette édition, Frédéric Saïs se demandera pourquoi les partis politiques promettent tous le dépassement. Son billet politique à 8h16. Pouvaient-ils être un peu plus sans abri? Ils n'ont en tout cas plus de toit au-dessus de leur tête. Plus de 12 000 migrants dans la détresse ce matin en Grèce après l'incendie d'un camp, le plus grand camp d'Europe, sur l'île de Lesbos à Moria. Marie-Pierre Véraud, vous venez d'arriver en Grèce, envoyée spéciale de France Culture, bonjour.
Bonjour.
Alors ce camp de migrants, Marie-Pierre, non loin des côtes turques, a été totalement détruit ces derniers jours.
Et oui, le camp de Moria, vous savez, souvent surnommé la honte de l'Europe, n'est plus. Les flammes ont fait rage pendant de longues heures, attisées par des vents violents. Plusieurs incendies, vite devenus incontrôlables, ont en fait démarré simultanément en différents points. Une première fois dans la nuit de mardi à mercredi, puis hier soir de nouveau, détruisant là les quelques abris qui n'avaient pas encore été réduits en cendres. En longue colonne, on a pu alors voir ces hommes, femmes, enfants fuir au cœur de la nuit, jetés dans un nouvel exode. Le gouvernement grec a apporté des tentes, des bateaux ont été dépêchés pour abriter les plus vulnérables, mais beaucoup ont passé la nuit dans les champs. Alors, s'agit-il d'incendies criminels? Des responsables grecs accusent des migrants opposés au contrôle sanitaire après des cas de Covid, mais pour Médecins sans frontières, c'est le résultat de plusieurs années de souffrance et de violence, dit l'ONG, produite par les politiques migratoires européennes.
Et l'Europe, justement, Marie-Pierre, est-elle mobilisée?
Oui, elle s'émeut en tout cas, l'Allemagne en tête, un désastre humanitaire pour Berlin qui exhorte ses partenaires à la solidarité afin d'accueillir des migrants. La Commission européenne, elle, prend en charge le transfert vers le continent des mineurs isolés, ils sont quelque 400. Reste à régler le sort des plus de 10 000 autres réfugiés. Leur espoir de quitter l'enfer de Lesbos est mince. La Grèce entend reconstruire dans l'île un nouveau camp fermé et plus contrôlé.
Merci Marie-Pierre. Marie-Pierre Véraud, depuis la Grèce, ce matin, vous êtes avec Laurent Macchietti pour les moyens techniques. Là aussi, les flammes font des ravages attisés par les vents, entretenus par la sécheresse. Des feux ravagent la côte ouest américaine en avance par rapport à la saison habituelle des incendies aux États-Unis. Hier, dans toute l'agglomération de San Francisco, le ciel était quasi apocalyptique d'un orange vif et brumeux. Regardons maintenant le sol de notre planète. C'est en l'utilisant bien trop souvent pour notre alimentation que l'on tue une partie de la faune. Plus des deux tiers des vertébrés, 68% exactement, ont disparu depuis 1970. C'est le chiffre donné ce matin par le baromètre de WWF qui cite notamment le déclin des moineaux en Europe, des gorilles au Congo, des tortues luttes en Guyane. Cette extinction est gravissime et elle s'accélère, indique la directrice de l'ONG en France, Véronique Andrieux.
À 68% de déclin de la nature, hein, c'est absolument alarmant. Et donc pour nous, c'est vraiment un message d'alerte, hein, de SOS pour la nature. Malheureusement, si on prend les chiffres des deux ou trois précédents indices planète vivante, la tendance est à la forte augmentation. En 2018, hein, c'était 60% de déclin de la nature. En 2016, c'était 58%. Avant ça, 54%. On le voit, on est à 68%. On a dépassé les deux tiers. C'est absolument effroyable. C'est l'année de la biodiversité. Il faut vraiment qu'il y ait un sursaut de la communauté internationale, des chefs d'État et de l'ensemble des acteurs pour un agenda biodiversité à 2030 ambitieux, avec des moyens alloués et des mécanismes de redevabilité.
Ils demandent des comptes, eux, en termes d'impact écologique, justement. En Australie, une action collective en justice vient d'être déposée par des adolescents contre la ministre de l'Environnement australienne, contre surtout son projet d'extension d'une mine de charbon. C'est une histoire qui se termine avant même d'avoir commencé. LVMH ne rachètera finalement pas Tiffany, le célèbre joaillier américain. Cette transaction de prestige avait été annoncée en grande pompe en novembre dernier pour 16 milliards de dollars. C'était sans compter la crise sanitaire, économique et diplomatique. Preuve en est une lettre envoyée à LVMH par le ministre français des Affaires étrangères, Franck Madvon.
Oui, le ministre a écrit une lettre à LVMH, mais ce n'est pas une injonction, ça n'a qu'une valeur politique non contraignante. Voilà comment l'entourage de Jean-Yves Le Drian explique ce courrier. Le ministre aurait simplement voulu informer le groupe du contexte. Paris et Washington sont fâchés sur la taxe GAFA. Les États-Unis ne veulent pas de cet impôt et ont riposté en imposant à la France des droits de douane supplémentaires, notamment sur la maroquinerie et les cosmétiques, des droits suspendus jusqu'en janvier prochain. Le message à LVMH est donc le suivant. Vos sacs Louis Vuitton et vos parfums sont dans le viseur. Un conseil, reportez votre mariage avec le joaillier américain Tiffany. Rien de plus, selon une source gouvernementale, qui admet tout de même que c'est aussi un appel au patriotisme économique. Mais pour LVMH, ce courrier est clair, il faut en appliquer les termes. Cette lettre opportune pour le numéro 1 mondial du luxe sera sans doute au cœur du dossier judiciaire aux États-Unis, Tiffany ayant attaqué le groupe français pour avoir renoncé au mariage.
Franck Madvon pour France Culture. C'est un dossier politique qui pourrait devenir juridique. Londres assume ne pas respecter l'accord trouvé sur le Brexit. Le projet de loi britannique va à l'encontre des négociations européennes et du droit international. Une réunion d'urgence est donc prévue avec les Européens aujourd'hui dans la capitale britannique.
8h06 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal, un nouveau plan social en préparation chez General Electric.
Oui, le groupe entend supprimer plus de 1200 postes en Europe, dont 764 en France. Des informations données par les syndicats, Anne-Laure Jumet.
C'est la branche en charge des équipements pour les réseaux électriques qui paierait le plus lourd tribut avec 618 suppressions de postes, notamment sur le site de Villeurbanne. Également touchée, la branche spécialisée dans la production d'alternateurs pour les barrages électriques. Là, ce sont 146 emplois qui devraient disparaître, dont 89 à Belfort, un site qui devrait lui aussi fermer. Du côté de la direction de General Electric, on ne veut pas confirmer ces chiffres, mais on reconnaît que ces deux divisions ont présenté un projet de transformation. Elles génèrent des pertes financières importantes, dit-elle, et c'est structurel, explique un porte-parole de l'entreprise, même si la crise du Covid n'a rien arrangé. Quant au syndicat, il dénonce la stratégie de General Electric, délocalisée dans des pays à bas coût, les postes étant transférés vers l'Inde, la Chine ou encore la Hongrie. General Electric déjà dans l'œil du cyclone pour non-respect de la parole donnée. En rachetant la branche énergie d'Alstom en 2015, le groupe s'était engagé à créer 1000 emplois. Engagement non respecté, ce qui lui avait valu une amende de 50 millions d'euros. Et puis l'an dernier, il avait annoncé un plan social portant sur 792 emplois dans sa branche turbine à gaz à Belfort. Plan finalement ramené à 485 suppressions de postes sous la pression de Bercy. Au ministère de l'économie, on ne fait pour l'instant qu'un seul commentaire au sujet de ce nouveau plan social. Nous serons attentifs à ce que ces restructurations maintiennent un maximum d'activités et d'emplois, grâce notamment aux dispositifs mis en place par le gouvernement.
Au chapitre très long en ce moment des suppressions de postes, il pourrait y en avoir plus d'un millier chez Auchan. Les salariés sont appelés à faire grève la semaine prochaine. Du chômage partiel pour les salariés du privé, des congés spécifiques pour les fonctionnaires, des indemnités journalières pour les indépendants. Voici les solutions apportées par le gouvernement pour les parents dont les enfants se retrouveront sans établissement scolaire à cause d'un cas éventuel de contamination au Covid-19. L'indemnisation sera à être attribuée à un parent par foyer, seulement si le télétravail est impossible. Dispositif rétroactif au 1er septembre. L'école à la maison pour certains, mais comment faire du sport? Par peur de l'épidémie, par prudence aussi, les clubs sportifs estiment que de nombreux enfants ne seront pas réinscrits en cette rentrée, ce qui les met en difficulté financière, Jérôme Val.
Combien d'enfants et d'adultes ne reviendront pas dans les gymnases ou sur les terrains par peur de l'épidémie? C'est trop tôt pour le chiffrer exactement, mais selon le décompte du Comité olympique français, 4 fédérations sportives sur 5 doivent faire face à des difficultés financières. Le CNOSF n'a pas dévoilé les disciplines les plus impactées, mais la crainte est générale que les jeunes, notamment, délaissent le sport À la crise du coronavirus pourrait s'ajouter une catastrophe sanitaire, s'alarme le président du mouvement olympique français. Depuis plusieurs années, les médecins mettent en garde contre la sédentarité des enfants et des adolescents. Ils courent moins vite aujourd'hui qu'il y a 50 ans. Le CNOSF veut donc de nouveau les attirer dans les 151 000 clubs existants en France. Avec, par exemple, la carte passerelle à destination des élèves de CM1 et CM2 pour tester gratuitement des sports. Sur les réseaux sociaux, le hashtag « J'ai l'esprit club » est lancé avec des messages des têtes d'affiche du sport français, Teddy Riner, Tony Parker, Florent Manaudou. Une allocation sportive pour encourager les adhésions est évoquée. Autant de pistes pour sauver un secteur qui devrait recevoir 120 millions d'euros d'aide, à peine 0,12% du total du plan de relance du gouvernement.
Cette question à présent, y aura-t-il une dose de proportionnelle pour les élections législatives? Le sujet est encore revenu sur la table cette semaine dans les couloirs des politiques. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, va étudier la question, car le sujet est sensible à 21 mois des élections, Antoine Maret.
Instaurer une dose de proportionnelle, cela permettrait de tenir compte de la réalité électorale tout en préservant une majorité stable à l'Assemblée nationale. Concrètement, dans ce système mixte, l'électeur glisse deux bulletins, un pour une liste et l'autre pour un candidat de sa circonscription. Mais cela veut dire que si une partie des députés est élue à la proportionnelle, il y a moins de députés élus au scrutin majoritaire et donc moins de circonscriptions, ce qui contraint à un redécoupage électoral, et là les choses se compliquent sérieusement. Romain Rambaud est professeur de droit public à l'université Grenoble-Alpes.
Il y a des contraintes géographiques, des contraintes démographiques et évidemment des contraintes politiques qui vont jouer, avec toujours un risque qu'on accuse le redécoupage des circonscriptions législatives d'être orienté politiquement.
Et puis il y a une contrainte de calendrier. On ne peut pas modifier le mode de scrutin moins d'un an avant une élection. Il reste donc 9 mois pour le faire, ce qui est peu, mais suffisant, selon Romain Rambaud.
Techniquement, ce n'est pas infaisable. Imaginons que ce soit accepté par l'Assemblée nationale. Ensuite, le Sénat résisterait, sans doute. Donc, il faudrait dépasser le désaccord du Sénat, ce qui prendrait du temps. Mais ensuite, une fois que la loi est adoptée, les circonscriptions peuvent être modifiées en France par voie d'ordonnance. Donc, on n'est pas obligé de les modifier par voie législative. Donc, l'ordonnance est possible et donc ça peut aller relativement rapidement. Par contre, ça posera beaucoup de problématiques politiques.
Autre question, quel serait le niveau de proportionnel dans ce scrutin ? En avril 2019, Emmanuel Macron avait plaidé pour une dose de 20%.
Et pour en savoir plus sur cette proportionnelle comme un épouvantail de la Ve République, rendez-vous sur notre site franceculture.fr. L'État belge est cité à comparaître aujourd'hui pour crimes contre l'humanité. Ce sont 5 femmes qui l'accusent en fait de les avoir arrachées à leur mère congolaise lorsque le Congo était une colonie. Comme 12 000 autres métis congolais, elles ont été placées dans des institutions religieuses au Congo, abandonnées de tous parce que la Belgique avait décidé de les soustraire à leur famille. 60 ans plus tard, elles ne veulent pas oublier Pierre Benazet.
Ce n'est qu'à la retraite que Monique Bitou a commencé à parler de sa jeunesse à ses enfants, tant son passé lui pesait. L'État belge estimait que les métis ne devaient pas être élevés par leurs mères africaines et l'administration coloniale les a arrachés à leur famille pour les confier à des missions religieuses.
Moi, je suis arrivée là-bas, j'avais 4 ans. On nous a toujours dit que votre père, c'est l'État. Pour nous, quand on me demande ton père, c'est qui? Mon père, c'est papa l'État. Et chez les sœurs, on était considérés comme les enfants de péché. On a été détruits moralement et physiquement. Il faut que papa l'État, qui était notre papa, reconnaisse ça. Un simple pardon ne suffit pas.
En 2019, le Premier ministre a demandé pardon à tous les métis au nom de la Belgique. Mais selon leur avocate, il fallait cette citation de l'État en justice pour crime contre l'humanité, pour extirper l'héritage colonial. Maître Michel Hirsch.
Nous demandons en réalité que justice soit rendue à travers une réflexion et à travers une loi. Une loi qui à la fois nomme les crimes commis et crée un fonds d'indemnisation pour les victimes et leurs descendants.
La procédure judiciaire devrait durer au minimum 1 an. D'ici là, la commission chargée de faire la lumière sur le passé colonial de la Belgique aura probablement fait avancer la cause des métis.
C'était Pierre Benazet depuis Bruxelles. Et si les poètes Arthur Rimbaud et Paul Verlaine entraient ensemble au Panthéon? L'idée n'est pas nouvelle, mais elle rassemble ces derniers jours de nombreux soutiens publics, notamment 9 ministres de la Culture, dont l'actuelle ministre Roselyne Bachelot. Une pétition a été lancée. Elle est lancée entre autres par Jean-Luc Barrelli, l'éditeur qui voit plusieurs symboles dans cette possible reconnaissance en duo. Il l'a dit à Anne Lamotte.
Moi, je pense que Rimbaud est le poète par excellence, c'est un des plus grands poètes, en tout cas, d'histoire littéraire, et Verlaine aussi. Mais on peut situer Rimbaud au-dessus parce que l'influence de Rimbaud est considérable. Elle ne cesse pas d'être moderne, elle ne cesse pas de toucher la jeunesse, et en plus, elle a traversé toute l'histoire littéraire. Je veux dire par là que de Claudel à André Breton, et Dieu sait s'il y avait un monde entre Claudel et André Breton, eh bien, tout le monde, ces gens-là se référaient à Rimbaud. On peut tout y prendre, il y a le communard, il y a le dormeur du Val, enfin, donc c'est un poète aussi qui est appris à l'école. Rimbaud, on le trouve sur des t-shirts, on le trouve, il inspire des peintres, mais qui dépasse tout. C'est pour ça que je ne m'inquiète pas pour le Panthéon, il dépasse tout, Rimbaud. Il appartient à rien, ni à personne. Ensuite, qu'il y avait un couple très passionnel et sans doute symbolique aussi de ce qui manque aujourd'hui au Panthéon, c'est-à-dire un couple qui ne soit pas qu'un couple hétérosexuel. Il y a trois couples hétérosexuels. C'est pas la démarche première, si vous voulez, il n'y a pas de démarche communautaire derrière tout ça, mais il y avait après tout l'idée de se dire, il y a deux grandes figures qui incarnent aussi une forme de transgression sur le plan sexuel.
Pour en savoir plus, vous pouvez réécouter l'affaire en cours d'hier de Marie Sorbier dans l'émission d'Arnaud Laporte. Je souligne que seul le président de la République est habilité à accorder l'entrée au Panthéon. Quelques nuages bas, parfois humides, vont planer au nord de la Loire ce matin. Météo France prévoit aussi des orages sur le sud-est. De belles éclaircies ailleurs et notamment sur le front ouest. Ce matin, il fait 15 degrés à Dijon, 19 à Paris, 21 à Biarritz.